Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant longtemps, l'histoire des découvreurs, autoproclamés de l'Amérique, des Indes, de l'Afrique ou de l'Océanie, s'est écrite, on le sait, à sens unique, du seul point de vue européen ou occidental. Ainsi, selon ce narratif éculé mais persistant, seuls les Occidentaux auraient découvert et bravé l'inconnu, seuls les Occidentaux auraient regardé l'autre, sans jamais vraiment le comprendre, et seuls les Occidentaux en auraient fait le récit. C'est alors forcément avec du retard, beaucoup de retard, que nous, Occidentaux, nous avons découvert autre chose, et bien que les autres nous regardaient aussi. Et cette semaine, c'est justement un renversement du ciel, dans une anthropologie, ou plutôt une histoire inversée, que nous allons nous plonger. À l'envers du fameux voyage de Bougainville, à Tahiti, en suivant le sillage d'un aventurier prénommé Aoutourou, qui sera le premier Polynésien à faire le voyage inverse et à débarquer à Paris en 1769, où il va passer un an à peu près. De cet homme, de ce découvreur pionnier au destin tragique mais méconnu, on ne sait presque rien. Mais en tout cas, tout ce que l'on sait de lui est à retrouver dans un livre, paru récemment aux éditions Au Vent des Îles, Aoutourou ou l'envers du voyage de Bougainville à Tahiti. Un livre écrit par l'historienne et enseignante Véronique Dorbe-Larcade, notre invitée cette semaine, qui a enquêté, cherché dans les recoins de l'histoire pour nous livrer ce récit, tel un miroir de vérité dans lequel les Occidentaux ont longtemps refusé de se voir. Cette semaine, avec elle et avec Aoutourou, on va donc faire un voyage à contre-courant et en eau trouble entre le Pacifique et l'Europe, un voyage qui débute à l'heure du contact. On est en avril 1768, les navires français La Boudeuse et l'Étoile approchent des côtes tahitiennes à l'est, et c'est l'explorateur Bougainville qui le raconte dans Voyage autour du monde, un récit célèbre aux allures de fable.
À mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les navires. L'affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant « Tayo !» qui veut dire « ami » et en nous donnant 1000 témoignages d'amitié. Tous demandaient des clous et des pendants d'oreilles. Les pirogues étaient remplies de femmes. La plupart de ces nymphes étaient nus, soit que, même dans les pays où règne encore la franchise de l'âge d'or, les femmes paraissent ne pas vouloir ce qu'elles désirent le plus. Les hommes, plus simples ou plus libres, s'énoncèrent bientôt clairement. Ils nous pressaient de choisir une femme, de la suivre à terre, et leurs gestes non équivoques démontraient la manière dont il fallait faire connaissance avec elle. Je le demande, comment retenir au travail, au milieu d'un spectacle pareil, 400 Français, jeunes, marins, et qui, depuis 6 mois, n'avaient point vu de femme. Aïe, 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 aïe. Malgré toutes les précautions que nous pûmes prendre, il entra à bord une jeune fille qui vint sur le gaillard d'arrière se placer à une des écoutilles qui sont au-dessus du cabestan. Cette écoutille était ouverte pour donner de l'air à ceux qui viraient. La jeune fille laissa tomber négligemment un pagne qui la couvrait et parut aux yeux de tous, tel que Vénus se fit voir aux bergers phrygiens. Elle en avait la forme céleste. Matelots et soldats s'empressaient pour parvenir à l'écoutille et jamais cabestan ne fut viré avec une pareille activité. Attends. Comment on peut croire des idées aussi pareilles?
Véronique Dorbe-Larcade, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient d'entendre dans cette archivina datant de 2020 avec quelle malice, en fait, le grand homme de théâtre polynésien et défenseur aussi de l'art oratoire Orero, John Merail, vient de lire un extrait du voyage autour du monde de Bougainville. Une lecture, on l'a entendu, qu'il achève par cette phrase, presque aux allures d'adresse, « Comment croire des idioties pareilles ?» Alors pour débuter cet échange, je vous adresse justement la formule à vous, l'historienne qui n'avait eu de cesse de chercher à rétablir une certaine vérité dans justement ce grand mythe, ce fantasme polynésien qui a forcément contribué à bâtir le récit de Bougainville. Comment est-ce qu'on travaille en tant qu'historienne quand les sources écrites proviennent de navigateurs européens, un brin même très affabulateur comme
on vient d'entendre? On essaie de ne pas être dupe. Et je crois qu'on peut y arriver. Surtout peut-être lorsqu'on est une femme. Et j'aime beaucoup cette façon très malicieuse de John Marray de lire ce texte. Ce texte qui est en fait un texte écrit très après coup. Et mon rôle d'historienne et en même temps de femme un peu âgée à qui on ne la fait plus... est tout à fait attiré par l'expression de quelqu'un qui, voilà, veut mettre un certain public de son côté. Le public de ceux qui ont fait le succès très important de ce livre, le récit du tour du monde de Bougainville, le premier tour du monde français, mais qui en fait est un récit romancé, peut-être pas une œuvre de fiction, mais quelque chose qui déforme, en valorisant Bougainville, un voyage qui s'est fait dans l'improvisation la plus complète, et surtout un tour du monde d'une circumnavigation durant laquelle le passage à Tahiti ou l'escale à Tahiti n'a duré que 10 jours. Or, dans cette version publiée, dans ce grand succès littéraire éditorial du XVIIIe siècle, où aujourd'hui on dirait un best-seller, ce moment tahitien a une place centrale et majeure. Et mon rôle d'historienne, ça a été de mettre les textes à la question. D'abord de les replacer dans leur chronologie, c'est-à-dire de bien repérer le décalage entre le temps du voyage qui a été documenté par la tenue du journal de bord qui faisait partie des obligations de service des officiers de marine et plus précisément du chef d'expédition qui était Bougainville. Et puis, cette version littéraire qui est faite pratiquement 2 ans après le retour en France et qui est destinée, alors que Bougainville se trouve en situation financière un petit peu délicate, la situation politique a changé en France, il n'est plus dans les petits papiers du premier cercle du pouvoir et à même de recevoir rétribution pour ce tour du monde qu'il a accompli, qui d'ailleurs n'a pas donné de vraiment
de
très
probants
résultats. Et donc il a besoin d'argent et il donne dans le sensationnel. Dans ce qui plaît, un public qui est un public masculin et un public d'hommes éclairés du XVIIIe siècle où le libertinage et une certaine vision des relations galantes avec les femmes est à l'ordre du jour.
Et alors parlons à présent de Aoutourou, puisque c'est lui qui est l'émissaire, le premier à aller au devant justement de Bougainville et de tout son équipage. Dans le récit qu'en fait Bougainville, dans Voyage autour du monde, il n'apparaît pas tellement dans la première version, un peu plus dans la deuxième. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose finalement de cet Aoutourou, de cet aventurier polynésien. Et vous écrivez que l'histoire d'Aoutourou est en lambeaux. Qu'est-ce qu'on sait au juste de cet homme ?
Justement, on ne le connaît que de manière indirecte, par miroir. En fait, Aoutourou, on a de lui que ce qu'en disent ceux qui l'ont rencontré. C'est quelqu'un dont on n'a pas de parole directe. Et justement, le but, c'est d'arriver à multiplier les témoignages, de ne pas s'en tenir simplement à ce qui est un petit peu écrasant. Ce récit de Bougainville qui fait partie des grands textes du XVIIIe siècle, qui est très souvent cité et pas forcément lu avec l'exigence justement d'honnêteté et de lucidité qu'il mérite.
Et puis la tâche était complexe parce que notre homme Aoutourou a déjà une identité multiple, il a plusieurs noms. Ça, on en est sûr. Mmh. Effectivement, on ne connaît pas sa voix, forcément, sa stature, son visage. Il n'a pas été peint. Mais on sait qu'il s'est appelé donc Aoutourou, mais aussi Boutaveri. On l'a aussi nommé Boutaveri. Enfin, il y a eu comme ça plein de déformations de son identité. Mais en tout cas, il a une identité multiple.
Je pense que dire qu'il a une identité multiple, c'est peut-être une façon européenne de dire quelque chose qui se, en fait, qui est l'expression d'usage polynésien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler, mais il faut être conscient du fait que on est à distance.
Bien sûr.
Et voilà, comme parfois on a une distance respectueuse vis-à-vis des choses, et c'est là, je crois, que quelqu'un comme moi peut se placer. En Polynésie, ou en tout cas pour les Ta'ata Tahiti,
les gens de
on
Tahiti.
Change, voilà. On change de nom quand il arrive quelque chose de fort dans une existence. Quand on contracte une union matrimoniale, quand on est confronté à la perte d'un être cher, ou quand on vit quelque chose de fort. En fait, on change de nom. Et il se trouve que lorsque Bougainville arrive, Aoturu devient effectivement Putaveri. Parce que quand on conclut un pacte d'alliance, mais qui est une fraternité choisie avec quelqu'un, on prend son nom, on échange le nom. Et il se trouve qu'en tahitien, on prononce Bougainville Putaveri. Et donc désormais, Aoturu s'appelle Bougainville. Et on devrait appeler Bougainville Aoturu. Si effectivement l'équilibre et l'équité des choses, et si le respect de l'usage polynésien est à l'ordre des choses. Mais le fait que Aoturu change de nom, ça ne veut pas dire forcément qu'il change d'identité. Il y a une profonde continuité dans un être fidèle à la société, à la culture polynésienne qui est la sienne, tout au long de cet extraordinaire voyage qu'il fait en France.
Sachant qu'au moment où Bougainville débarque à Tahiti, qu'il appelle alors la Nouvelle Citerre, il ne sait pas qu'un an à peine avant lui, en juin 1767, des Britanniques, commandés par Samuel Wallis, ont été finalement les premiers Européens à aborder à Tahiti, à y séjourner un mois, ce qui en dit long finalement sur le dialogue et la communication établie avec les autochtones par Bougainville. On écoute une archivinade datant de 2020 de Serge Tcherkezov, ethno-historien, membre fondateur du Centre de recherche et documentation sur l'Océanie et spécialiste des premiers contacts entre Polynésiens et européens.
Le voyage qui a lancé tellement de choses de ce que nous appelons aujourd'hui la mythification européenne de Tahiti repose surtout sur le voyage de Bougainville, dont un, ils sont restés sur place que 10 jours, et que d'autre part, il y avait pratiquement zéro d'intercommunication possible, puisqu'on a ces scènes où Bougainville lui-même décrit que pour expliquer au chef local qu'il voudrait rester un certain nombre de jours, il est obligé de prendre des cailloux dans la main, de montrer le soleil, de prendre un caillou pour dire voilà une journée. Anecdote intéressante d'ailleurs, parce qu'il raconte lui-même, en comprenant pas très bien, un peu vexé peut-être, que le chef lui rend quelques cailloux en disant non mais pas trop hein. Les Tahitiens, instruits par les expériences précédentes, à tout moment ne savaient pas à quoi s'attendre de l'expédition de Bougainville. Bougainville a été sans lieu de penser qu'ils n'ont jamais été pris pour des amis pacifiques. Ils ont été pris pour d'immenses dangers avec lesquels il fallait... On ne savait pas du jour au lendemain ce qui pourrait se passer. Mais en tout cas, c'est pour dire que il n'y avait pratiquement pas un mot d'intercompréhension possible. Alors se dire que c'est le voyage qui nous dit plein de choses sur la culture tahitienne traditionnelle, c'est renversant.
Véronique Dorbel-Arcade, on entend bien à quel point le contexte de cette première rencontre entre les Français de Bougainville et les Polynésiens était forcément propice à tous les malentendus et toutes les tensions, et on en découvre pas mal en vous lisant. Il y a des larcins, il y a des câblages qui sont coupés aussi par des hommes, enfin on sent que la tension monte au fur et à mesure. Et surtout qu'on ne se comprend pas si bien que ça, loin de là.
Complètement. Il faut imaginer la peur qui devait être celle de ces Français qui arrivent, qui sont armés, numériquement en situation d'infériorité et qui ne comprennent pas non seulement les mots des Tahitiens, mais en plus le fonctionnement de leur société. Par exemple, leur échappe totalement le cycle de la production agricole. À savoir que la saison de l'abondance, la saison des récoltes, est au moment où ils arrivent en train de se terminer. Donc il va y avoir un problème de ravitaillement pour l'expédition qui arrive avec deux navires, avec des hommes adultes qui ont besoin de rations importantes, alors que justement on est dans une phase où il s'agit de rationner pour la population locale. Il se trouve que Wallis, qui était arrivé quelques mois auparavant, arrivait avec un seul navire. Là, il y a deux navires qui viennent mettre en péril, peut-être pas la survie, mais en tout cas l'approvisionnement sur le long terme de la population de l'île.
Et puis aussi, il y a d'autres incompréhensions, notamment, et vous en parlez, sur le principe de réciprocité symétrique, qui est important, vous dites, dans la sociabilité tahitienne, sur justement les denrées d'échange, et y compris pour les femmes, qui étaient clairement un objet de troc. Or, à bord du navire, ou des navires des Français, il n'y avait pas de femmes, ce qui va intriguer d'ailleurs les Tahitiens. Aucune femme, mais pas tout à fait, et vous me voyez venir, puisque une femme s'était glissée incognito dans l'expédition de Bougainville, et elle sera démasquée par Aoutourou, toujours lui. C'est Jeanne Barret, la fameuse, la grande exploratrice, déguisée en homme.
Mais oui, et c'est justement un contrepoint passionnant. Quand je dis passionnant, c'est peut-être pas le terme exact, mais auquel on ne peut manquer d'être attentif aujourd'hui. Aoutourou est quelqu'un qui, de par sa vocation, si je puis dire, en employant là encore des termes européens, c'est un arihoi, quelqu'un qui est le porte-parole d'un message spirituel qui passe justement par l'exploitation de tous les aspects de la puissance vitale, dirons-nous, et dont l'amour, dans sa dimension charnelle, fait partie. Et donc, effectivement, s'il repère Jeanne Barret travestie, c'est qu'il a certainement une attention particulière bien au fait qu'on est dans un équipage qui a passé de longs jours en mer et qui n'a pas les habitudes d'hygiène qu'ont les Tahitiens, les Tahata Tahiti, et qui certainement a des odeurs féminines qui sont très sensibles et qu'on, par complaisance ou par négligence, tout simplement, complètement oublié ses compagnons, les marins français. Mais curieusement, et c'est ce qui la rend, qui rend cette rencontre de Jeanne Barret et d'Aoutourou intéressante, c'est que justement, en fait, Jeanne Barret est tout de suite mise en sécurité par Bougainville et ses officiers, donc elle n'est pas du tout livrée aux Tahitiens, mais que Aoutourou noue avec elle une vraie amitié. Alors que c'est quelqu'un pour lequel, comment dirais-je, le contact avec les femmes ne posait aucun problème. Eh bien, avec Jeanne Barret, il va avoir des relations qui sont pas simplement de distance respectueuse, mais de vraie complicité. Il se fait coiffer par Jeanne Barret. D'autant que Aoutourou l'identifie comme quelqu'un qui est un Mahou. Dans la société polynésienne, les personnes transgenres, voilà, font partie, si j'ose dire, des éléments constitutifs des relations sociales. Mais surtout, il est très possible que lorsqu'il fait le voyage retour, Jeanne Barret avait été laissée, compte tenu du scandale que représentait la présence d'une femme à bord d'un navire de la marine royale, avait été laissé à l'île de France, c'est-à-dire l'île Maurice au jour d'aujourd'hui, lors du voyage retour vers la France. Lorsque Aoutourou a fait le voyage de la France vers, espérait-on, le retour vers Tahiti, donc il fait escale à l'île de France et il y a toutes les raisons de penser qu'il espérait retrouver Jeanne Barret. Et le triste des choses, c'est que quelques semaines près, il aurait pu effectivement la retrouver et retrouver quelqu'un avec qui il avait eu une vraie relation humaine de chaleur, de compréhension, de bienveillance.
Alors effectivement, vous l'avez dit, Bougainville et son équipage vont quitter Tahiti et même précipiter, pour ainsi dire, le départ de la boudeuse et de l'étoile, après seulement quoi, 10 jours à peine sur place.
Exactement.
Et ils emmènent avec eux, à bord, Aoutourou.
avant l'arrivée des Européens qu'on connaît dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y avait eu un certain nombre de prophéties dites par des grands prêtres et des prêtresses, y compris à Mangareva, qui prédisaient l'arrivée des grandes pirogues sans balancier, avec des hommes qui seront comme nous, mais pas comme nous, mais qui font partie de Tetumu, du tronc commun, qui font partie de l'humanité, mais qui seront différents de nous, et qui annonçaient toute une série de grands changements, de grands bouleversements, dont voilà, ils prendront nos terres, voilà, ça dépend des types de prophéties, mais les gens, semblait-il, étaient déjà un peu au courant qu'il allait se passer des choses. Alors est-ce que les gens s'embarquent avec eux pour voir comment ça se passe? Ça paraît tout à fait naturel. Hein. Il ne faut pas oublier que les Espagnols ont commencé à sillonner le Pacifique dès le début du XVIe siècle. Donc avec tous les échouages qu'il y a pu y avoir au Tuamotu, l'archipel dit dangereux, les gens étaient au courant. Ils ont peut-être aussi été envoyés comme, pas comme espions, mais comme indicateurs. Qui sont ces gens? Il faut les accompagner, il faut aller voir quels sont ces pays de l'étranger. Voilà. Mais malheureusement, Arutoru n'a pas pu revenir.
Véronique Dorbel-Arcade, on vient d'entendre Taraïna Rai, alors étudiante en tahitien à l'Université de la Polynésie française, qui était interrogée et qui apparaît dans le documentaire sonore datant de 2020 de Delphine Morel, consacré justement à Arutoru. Et elle vient de nous parler d'émissaires quasiment politiques. Est-ce que c'était le cas, selon vous, d'Arutoru ?
À vrai dire, il faudrait pouvoir rentrer dans la réalité polynésienne. C'est pour des Européens, sans doute, avec les moyens de compréhension qu'on a aujourd'hui, quelque chose d'encore très délicat à prononcer définitivement.
Mais alors pourquoi il embarque ?
Alors en fait, je pense, et là encore, avec toute la prudence que l'Européenne que je suis, qui à distance respectueuse se tient de la réalité polynésienne d'avant le contact, je crois qu'on a affaire à quelqu'un qui veut poursuivre sa mission religieuse. Une mission religieuse qui est sans doute pas étrangère à un projet politique, mais il y a une espèce de condensation dans la vie, dans la réalité polynésienne, entre le religieux, le social, le politique.
À l'époque, c'était le culte du dieu Oro.
Du dieu Oro, effectivement. Je pense que, en tout cas, on ne peut pas parler de projet impérialiste du côté,
ah
du
non,
côté polynésien.
Pas le sens de ma question.
On voyait les choses totalement différemment. Et je pense que profondément pour Arutoru, il s'agissait d'aller au-devant des autres et en missionnaire de porter le message d'Oro et de faire changer le cœur, ou en tout cas la façon de voir de ceux avec lesquels il entrait en contact. En fait, il cherchait à aller de l'avant. Et je crois que c'est ce qui lui a permis de dépasser la peur qui était celle des Français. La peur, elle devait exister aussi de la part des Tahitiens. Et c'est ce qu'on a entendu. Il y avait la crainte de voir se rééditer ce qui s'était passé avec Wallis, à savoir un tir d'artillerie qui avait fait des morts et des blessés graves dans la population tahitienne. Arutoru, il n'a pas eu peur d'aller au-devant, de monter sur le navire, d'entrer en contact, alors évidemment par geste, et puis surtout d'imposer sa présence, parce que il allait de l'avant. Et celui qui est dans le courage, la dynamique et exactement l'esprit d'aventure dont vous parliez tout à l'heure, c'est lui, effectivement. C'est lui le premier qui est parti.
Qui est parti justement jusqu'en France, après une halte, vous l'avez dit, sur l'île de France, aujourd'hui île Maurice, après une escale aussi au Cap. Et le 16 mars 1769, par 5 degrés de température, la boudeuse accoste à Saint-Malo. Arutoru, appelé alors, et on l'a dit, Louis Poutaveri, pose le pied pour la première fois en France, où d'autres aventures l'attendent. C'est ce que l'on va voir pour la suite de ce voyage, si loin, si proche. Mais tout de suite sur RFI, place à Eddy Lund et son orchestre avec Vaine Pumutu.
Vaine Pumutu taku, hei, taku e mana one. Vaina te mataki toki rau, hei, atuke e atue. Mau mau atu na taku taura, i te haka mau atura, i tahua tani tani. patuna taputaura ite hakamau atura itahua tani tani e epipi ki kamamu e eirutu ite na parekino e pare anu anua e ite piha Atuna takutaura, ite hakamau atura. Avivina papa iava, o te kura matavare. Mau mau atuna takutaura, ite hakamau atura. Avivina papa iava, o te kura matavare.
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
Des tas d'écrivains ont pensé la Polynésie, la nouvelle Citerre, etc. De Diderot à Pierre Loti, on a vu des beaux paysages, des êtres étonnamment gentils, doux et à la longue défigurés car les autres ont fini par transformer cette gentillesse en naïveté, puis en imbécilité. Le plus étonnant aujourd'hui serait qu'un Tahitien prenne la plume, que celle-ci devienne lance, flèche. Étonnant, car après tout, c'est un peuple pacifique et toujours endormi, n'est-ce pas? Mutisme. Après tout, faut croire qu'on ne peut faire plus que nos prédécesseurs. On ne peut faire mieux que ces nouveaux arrivants qui auront toujours le privilège de venir en découvreurs. Mutisme. Malaise. Je ne pourrais faire mieux. Ils ont tous sondé l'âme maori. C'est vrai, ils ont tout dit. C'est vrai, il ne nous reste plus que l'inquiétant silence de la résignation.
Avec la grande voix polynésienne Titawa Pehu, qui était venue à RFI chez nos consoeurs dans Sol majeur et qui à cette occasion avait lu un extrait de son premier roman Mutisme, on continue à Si loin si proche de naviguer sur les traces d'Aoutourou, premier polynésien à avoir découvert la France et les rues de Paris à la fin du XVIIIe siècle. Titawa Pehu est publié au Vent des Îles, comme vous l'êtes également, Véronique Bordelarcarde, vous qui êtes l'autrice d'Aoutourou ou L'envers du voyage de Bougainville à Tahiti. Et à propos de mutisme et de peuple tahitien silencieux, Aoutourou finalement fait office, c'est ce que je me suis dit, à sa manière de héros, d'aventurier muet. Parce qu'il parlait en gestes, il n'a rien écrit évidemment. Et puis seul subsiste, on en a parlé, des traces écrites, incomplètes, indirectes. Est-ce que c'est pour ça que vous teniez à reconstituer sa trajectoire comme une manière de lui donner la parole, d'une certaine manière?
Je crois qu'on a affaire à quelqu'un qui a une extraordinaire capacité de résilience. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'une extraordinaire détermination, au-delà même de tous les malheurs, de toutes les malchances, de tous les gâchis dont il a été victime. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui impose qu'on parle de lui, parce que tous ceux qui l'ont rencontré ont été impressionnés par lui.
Alors vous parlez de gâchis, c'est vrai que quand on découvre son séjour dans le royaume de France, alors certes il va être présenté à la cour de Versailles, introduit dans des milieux aisés, savants, et en même temps, sous votre plume, et puis avec toutes les informations que vous rassemblez, historiques, on se rend compte que finalement l'arrivée de cet homme ne fait pas tellement la une, quand même un peu, mais finalement on découvre un séjour français assez sinistre, comme un rendez-vous manqué en fait.
Complètement. Il a le malheur ou la malchance d'arriver dans une époque de crise profonde en France à plusieurs niveaux. Une crise qui est liée à la défaite de la France face à la Grande-Bretagne dans la terrible guerre de Sept Ans qui a été une défaite pour la France, entraînant la perte du premier empire colonial français à peu près complète. Surtout une crise intérieure à la France de Louis XV, avec, au moment où Bougainville revient en France, la disgrâce du duc de Choiseul, qui était son protecteur, qui est écarté du pouvoir. Et donc Bougainville se trouve privé de ses relais, de l'audience à la cour, et si bien que, par effet secondaire, Aoutourou n'a pas l'attention qu'il mérite. D'autant que Bougainville utilise Aoutourou à la fois quand il le présente dans les salons, en parlant à sa place, puisque Aoutourou ne parle pas français. C'est pas qu'il, sans doute, est incapable d'apprendre ou de prononcer le français, mais parce que sa dignité d'Ari, de haut personnage de la société tahitienne, lui interdit de s'humilier ou de s'avilir à mal prononcer une langue. Et puis surtout parce que la manière dont il parle d'Aoutourou dans le voyage autour du monde est une façon qui est très équivoque. Clairement, Aoutourou est arrivé à communiquer à Bougainville beaucoup d'informations sur la société tahitienne, ce qui en dit long sur sa capacité à justement parler avec son
corps. Comprendre.
Et à se faire comprendre. Bougainville qui noue avec Aoutourou une vraie relation d'amitié. Il s'agit de ne pas déformer les choses. Bougainville a de l'affection pour Aoutourou et une affection sincère. Et Aoutourou a vraiment de l'estime pour Bougainville. Ils ont affronté ensemble un voyage extrêmement difficile où on ne peut pas se mentir. Et où certainement ils ont pu s'apprécier l'un l'autre. Mais il n'empêche que les occasions manquées se sont multipliées. Et Aoutourou n'a pas été accueilli avec l'exceptionnalité que sa venue représentait.
Et puis aussi, durant ce séjour parisien, et vous donnez à voir ça dans votre livre, vous racontez la réalité du Paris de 1769, quand donc Aoutourou découvre la capitale, des rues crasseuses, pleine de rats, d'affamés, des gamines qui se prostituent pour survivre à la ville, dans une débauche assez sordide quand même, très loin justement des Lumières et de ses philosophes. Et personnellement, je vous avoue que je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir. Alors c'est très personnel comme avis, mais un espèce de retour à l'envoyeur, comme un miroir tendu à ces Français qui ont projeté justement sur le lointain archipel de Tahiti cette hospitalité sexuelle. On écoute d'abord la grande autrice tahitienne Chantal Spitz dans une archive datant de 2019 et on en parle juste après.
Le plus important, c'est de dire ce qui nous est arrivé. Après, on ne va pas aller faire la guerre, hein, mais il faut qu'on dise les gens sont arrivés. On a eu l'alcool, on a eu les maladies. Après, il y a eu des histoires d'amour, c'est sûr. Mais qu'on ne vienne pas me dire que quand ces marins arrivent, d'ailleurs, quand le premier Européen arrive ici, il nous tire dessus. Hein. C'est quand même le premier contact. Après, on te dit ils étaient contents, ils se sont précipités. Non, on nous tire dessus. Ça, on ne dit pas. C'est des contacts violents. Mais on va te dire, les femmes, elles se sont jetées dans les couches. Attends, les marins à l'époque, ils ont quoi, 6 mois de navigation? Ils ont le scorbut. Ça, t'apprends à l'école. Dans le scorbut, ça veut dire qu'ils ont les gencives qui saignent, ça veut dire qu'ils ont les dents qui se déchaussent. Ça veut dire, d'ailleurs, on les a appelés les pop-a. Les pop-a, ça veut dire les peaux brûlées. Ils ont la peau qui pèle. Ils ont des barbes jusque-là. Enfin, c'est quand même un pays où les gens sont un peu imberbes à l'origine. Hein. Ils sentent mauvais parce qu'ils ne se baignent pas quand même. Parce qu'à l'époque, en Europe, c'est pas l'hygiène, c'est pas le premier truc. Hein. Voilà, c'est ça la réalité. Ils voudraient que nous faire croire que nos grands-mères se sont précipitées dans leur couche, alors qu'ils avaient des mecs là, bien beaux, bien machins, qui sentaient bon, ils se baignaient 15 fois par jour, ils n'avaient pas de poils. Faut arrêter. Ils n'avaient pas de caries, faut arrêter.
Depuis qu'elle a publié en 1991 « L'île des rêves écrasés », un roman qui fera date, l'écrivaine Chantal Spitz n'a eu de cesse de combattre, déconstruire aussi ce mythe de la vahinée lascive, mais aussi celui du banc sauvage, du Pacifique, forcément passif. Sachant que ce fantasme de la vahinée, et on en a parlé, qu'a contribué à bâtir les Occidentaux, Bougainville en tête, il y en aura d'autres derrière, Loti, Gauguin et tant d'autres, ce fantasme donc est encore aujourd'hui en Polynésie un traumatisme durable. Et je me demandais, là je fais cette pirouette, mais vraiment, est-ce que c'est pour cela que vous avez rappelé, notamment dans le Paris qu'a fréquenté à Autourou, les maisons de passe, la débauche qui avait cours justement là-bas?
Ah, complètement. Et effectivement, je crois que c'est une espèce de... L'envers du voyage de Bougainville, c'est une espèce d'idéalisation de Tahiti qui est à la mesure de ce qu'est le sexe
et des mœurs à l'époque.
Voilà. Et en particulier dans ce monde urbain extrêmement dur, qui est celui que découvre Autourou lorsque Bougainville, aux abois financièrement, se lance à corps perdu dans l'écriture de fantastique ou en tout cas idéalisante de son tour du monde, alors que Autourou fait la démarche inverse, alors que Bougainville est en train de mythifier Tahiti. Autourou découvre la réalité de la France.
On se demande justement si finalement dans cette curiosité qu'avaient les Européens pour lui, c'était pas finalement encore dans cette histoire de miroir une façon de se voir aussi à travers lui. C'est-à-dire que l'Antiquité a eu ses barbares et là l'Europe des Lumières a ses Indiens, pour mieux finalement se définir. Donc il y a une curiosité mais qui finalement c'est toujours pour revenir à soi. On a l'impression quand même que souvent c'était un faire-valoir pour Bougainville, une façon aussi pour d'autres. Je pense à Diderot avec le supplément au voyage de Bougainville qui finalement fait du peuple tahitien et du décor finalement une façon d'argumenter ses idées, anticléricales notamment.
C'est certain, le XVIIIe siècle est une époque extrêmement complexe et justement, enfin, les spécialistes du XVIIIe siècle aujourd'hui rentrent dans toute la complexité de cette relation aux non-européens et qui est quelque chose qui est à la fois une manière détournée de dénoncer les travers d'une société qui est en train de changer, dont le caractère injuste, insupportable et clairement ressenti. Vous parliez de Diderot, oui, tout à fait. Mais en même temps, il y a aussi déjà une haine de soi des Européens. Et justement, la manière dont, au XVIIIe siècle, les non-Européens ne sont plus perçus comme des sauvages et des barbares au sens péjoratif du terme, témoigne bien du fait qu'il y a déjà un doute profond sur la légitimité du fonctionnement des valeurs de la société européenne. Mais là encore, c'est très contradictoire, c'est très complexe et les spécialistes aujourd'hui, justement, avec beaucoup d'attention, analysent tous les sous-entendus, toutes les implications sur le moment et sur le long terme de ce mélange de sentiments passionnels à l'égard des autres, à tous les sens du terme passion.
Pour en finir avec Bougainville et ce souvenir d'Autourou, c'est le sous-titre qu'on aurait bien vu à votre livre, Véronique d'Orbe-Larcade. Ce souvenir d'Autourou qui va finir ses jours. Et vous l'avez dit, sur le trajet retour, après une année assez morne, on en a parlé, passée en France, une mort survenue donc le 6 novembre 1771, lors du voyage retour, permis notamment par Bougainville, mais surtout par Madame de Choiseul. Et cette mort, vous l'abordez, Véronique d'Orbe-Larcade, dans votre livre dès le début, parce que c'est finalement presque ce qui a été le plus documenté.
28 octobre 1771. Enseigne de vaisseau Chevillard de Montaison.
La petite vérole s'est manifestée à bord 3 semaines après notre départ. À Autourou, l'insulaire de Tahiti que nous allions rendre à sa patrie d'où il avait été amené en France par M. Bougainville, a été attaqué le premier. L'état-major a arrêté que nous irons relâcher à Fort Dauphin, établissement français situé dans le sud de Madagascar.
Novembre 1771. Enseigne de vaisseau roux.
Le 6. Autourou est mort à 8h du soir. Sa mort nous a touchés, d'autant plus qu'il était en partie cause de cette expédition et qu'il était bon homme. Privé de notre interprète, nous allons avoir la plus grande peine à nous insinuer auprès des insulaires de Tahiti. On le regardait avec raison comme un homme nécessaire pour ce voyage. Il y avait lieu d'espérer qu'en reconnaissance des bons traitements qu'il avait reçus de la nation de France, il se serait employé à nous servir auprès de ses compatriotes de Tahiti.
Garde de la marine du Clemmer.
Malgré l'épidémie à bord et le décès d'Aoutourou, le capitaine Marion a décidé de continuer le voyage. Le projet est de faire route vers Tahiti tout en cherchant les terres australes, en présumant qu'elles existent. Nous allons explorer la mer à l'est entre les 43e et 50e parallèles de latitude. Si nous ne trouvons pas de terre, nous continuerons la route jusqu'à la Nouvelle-Zélande.
Dans cet extrait de Journaux de bord, ici mêlé, mis en onde dans le documentaire toujours de Delphine Morel pour France Culture datant de 2020, on vient d'entendre comment les Français attendaient beaucoup de ce retour d'Aoutourou. Et puis aussi on a entendu le nom du capitaine Marc Marion Dufresne, capitaine du vaisseau Le Mascarin, censé ramener Aoutourou chez lui. Et dans votre livre, Véronique Dorbel-Arcade, vous écrivez comment, je cite, « la mort d'Aoutourou est directement imputable à la précipitation de Marion Dufresne ». Expliquez-nous pourquoi.
Alors, on est là encore dans cette période de crise catastrophique qui est celle de la France. Voilà. Hein, on a une concurrence franco-britannique pour la conquête de ce qu'on escompte être un nouveau monde au XVIIIe siècle dans le Pacifique. On a affaire avec Marion Dufresne à quelqu'un qui a été ruiné ou en tout cas mis en très sérieuse difficulté matérielle par l'effondrement de la Compagnie française des Indes et qui est poussé dans une espèce de course à la réussite et qui, évidemment, néglige les précautions sanitaires. Aoutourou avait manifesté sa capacité, enfin sa volonté de vivre. Et donc, certainement qu'il aurait été capable de survivre s'il avait été soigné dans de bonnes conditions, même à une attaque de petite vérole. On la soignait très mal à l'époque, mais il y avait des survivants. Et on peut penser qu'animé par le désir de revenir chez lui, il aurait pu survivre.
Parce qu'en fait, le capitaine savait que Aoutourou avait des signes de maladie.
Exactement.
Et il est parti quand même.
Et voilà, au lieu de le soigner à terre ou en tout cas de lui permettre de vivre l'attaque de la maladie dans des conditions qui lui donnaient des chances effectivement de pouvoir la surmonter.
Sachant qu'à la fin de votre livre, justement, je disais, la mort, finalement, vous vous en débarrassez dès le début. Et à la fin, vous préférez ne justement pas en rester à ça, mais au contraire, parce que c'est quand même une triste fin sur le chemin du retour. On savait qu'il était, petite parenthèse, à Aoutourou, assez déprimé. Il était de plus en plus triste. Il voulait rentrer chez lui. Et donc, en fait, vous ne voulez pas en rester à cette triste fin. Au contraire, vous prolongez d'une certaine manière son voyage en évoquant les autres aventuriers polynésiens partis comme lui, au-delà du ciel, vers l'Europe. Alors il y a Tupaya, parti avec Cook, vous citez aussi Iti-Iti, et puis surtout Omai, qui en 1774 va débarquer en Angleterre, et puis va revenir. Lui, il va revenir parmi les siens 3 ans plus tard. Qu'est-ce que nous apprend finalement ce voyage-retour ?
Justement, qu'est-ce qu'il nous apprend ? Eh bien que, voilà, ce terrible concours de circonstances, cette accumulation de gâchis qui empêche Aoutourou de revenir chez lui, en fait, on peut en avoir une idée à travers ces personnages. Mai, justement, n'était pas du tout dans la situation sociale qui était celle de Aoutourou, qui faisait partie vraiment de l'élite de la société. Son retour n'a pas été vraiment convaincant. Par contre, Puoro, qui lui est parti avec les Espagnols et qui est rentré, a pu comparer ce qui s'était passé avec les Britanniques. Et Puoro pensait que les Espagnols étaient bien supérieurs aux Anglais. On n'a pas pu comparer avec les Français, puisque leur présence au XVIIIe siècle dans le Pacifique s'est limitée à celle de Bougainville. La Pérouse n'est pas passée par Tahiti. Donc voilà, il n'y a pas eu de comparaison avec les Français. Mais ce qui est certain, et ce dont on a la preuve sûre aujourd'hui, c'est qu'il y a eu communication de la part de ces voyageurs sur leur expérience avec les Européens. Et qu'il y a même eu intégration des voyages des Polynésiens dans le savoir qu'on peut qualifier de géographique des Polynésiens. En particulier, Iti Iti, qui a participé à l'exploration du Pacifique avec Cook, eh bien, a rapporté au Tata Tahiti la connaissance d'îles dont on avait perdu dans la circulation, dans la navigation polynésienne dans le Pacifique, le souvenir.
En conclusion, Véronique Bordelarcade, aujourd'hui, est-ce que, avec votre travail et plus largement la volonté actuelle aussi de faire émerger des figures polynésiennes dans un récit quand même largement amputé de voix polynésiennes, autochtones, est-ce que vous pensez qu'on a avancé, qu'aujourd'hui, par exemple, dans le cas d'Aotourou, on le connaît mieux, on le connaît bien à Tahiti, en Polynésie plus largement?
En tout cas, ce que je pense, c'est qu'on parle de lui, je pense qu'on peut dire qu'on l'identifie comme quelqu'un qui est pas simplement un acteur de l'histoire et du passé polynésien, mais quelqu'un qui porte la trace et le poids justement de ce qu'est la présence des Français à Tahiti. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il est occulté, c'est aussi le fait qu'il a voyagé avec les Français qui, ultérieurement, devenus les colonisateurs de Tahiti. Et on ne peut pas exonérer ça. On ne peut pas oublier ça. Le terme n'est sans doute pas exact. Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'un livre d'histoire sur Aotourou, ça n'est qu'une partie de son histoire. Et que je pense qu'il y a une génération d'historiens polynésiens qui est en train de monter et qui vont contribuer à continuer cette histoire. L'histoire, c'est jamais quelque chose de définitif. Et la connaissance du passé, c'est quelque chose qui est lié à ce qu'on fait du présent et à la manière dont on voit l'avenir. Moi, je crois que Aotourou, il ne fait que continuer sa route. Le fait que, en fait, il ait attiré l'attention de quelqu'un qui venait de France, c'est une façon d'aller jusqu'au bout de la réussite qui est la sienne. En fait, Aotourou a accumulé les malheurs, il a accumulé les malchances, mais tous ceux qui l'ont rencontré en ont été changés. Et j'y vois la continuation de sa capacité justement à faire passer avec toute la puissance de quelque chose que j'identifie comme le mana. Quelque chose qui est la réussite, la continuité de son message. Aotourou, il est allé vers les Européens et il a réussi à faire qu'on se souvienne de lui.
Mais en vous écoutant, on entend presque la destinée polynésienne aussi, tahitienne en
je...
tout cas.
Je
sans
ne sais
en faire
pas.
Un symbole, mais...
Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que c'est un personnage qui compte, et surtout un personnage dont, je crois, les Tahitiens peuvent être fiers.
Véronique Bordelarcade, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru récemment au Vent des Îles, Aotourou ou l'envers du voyage de Bougainville à Tahiti. Sur notre site, chers auditeurs, on a mis les références de cet ouvrage, comme celle des ouvrages de Tita Wapéou et Chantal Spitz, toutes publiées dans la précieuse maison d'édition polynésienne au Vent des Îles. Je tiens à souligner que la plupart des archives ici diffusées sont tirées donc du très beau travail documentaire de Delphine Morel. Merci à Lina et à la Sonothèque de RFI pour ces archives. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, on vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine sur l'antenne de RFI.